Merci David, et puis je suis content d'être là. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une première rencontre dans la programmation et l'action qu'on met en place. Il s'agissait de poser à travers cette première intervention, et conférence, c'est un bien grand mot pour quelque chose qui se veut d'abord une présentation. Et il va s'agir aujourd'hui pour moi de situer la problématique qui structure un petit peu le projet qu'on porte et bien sûr auquel on aimerait vous sensibiliser parce qu'on voudrait que ce soit une participation qui se construise sur la durée, que ce ne soit pas juste épisodique, conjoncturel, mais que vraiment on est un ensemble, un groupe d'acteurs et d'actrices qui s'impliquent dans ce projet. Donc aujourd'hui, je vais présenter et introduire ce qui a motivé notre réflexion. Alors, les rapports cinéma, jeux vidéo, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui revient sans arrêt, un petit peu comme si on réinventait chaque année, on redécouvrait chaque année qu'il y avait des nouvelles technologies, qu'il y avait du jeu vidéo, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre cinéma et jeux vidéo. Sauf qu'évidemment, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit à peu près les mêmes choses. Donc on est dans une situation paradoxale où d'un côté, on a l'impression de parler de quelque chose qui est toujours nouveau. Et en même temps, beaucoup de choses se font, des actions se montent, des générations passent, et on continue d'avancer néanmoins. Donc c'est un petit peu aussi le but de ce projet. L'idée, c'est aussi de sortir de ce discours sur les nouvelles technologies, etc., qui donne l'impression que finalement, on est dans une sorte de situation de crise permanente et d'urgence permanente à devoir courir après une innovation qu'on n'arrive jamais à rattraper. Donc la question pour nous dans ce projet, c'est évidemment celle des salles et c'est celle des publics. Donc vous allez voir comment je propose de poser la question, mais cette présentation, elle a aussi pour but d'ouvrir sur la discussion qui va suivre. Donc je ne suis pas là pour asséner un programme ou asséner des analyses. Il y aura d'autres temps et de conférences plus approfondies, plus analytiques. Ici, il s'agit d'abord d'ouvrir sur une première discussion, qui est une première prise de contact avec vous en tant qu'acteur et actrice de l'action culturelle. Alors, je vais commencer par une mise en contexte par rapport à, finalement, quelle est, du point de vue un peu historique, la situation par rapport aux jeux vidéo. Bon, en France, dans les années 70, le jeu vidéo est d'abord apparu aux yeux du grand public comme un accessoire à la télévision. Hein. Ici, on a un exemple du jeu devenu fameux, même pour les personnes qui n'y ont jamais joué. C'est devenu un petit peu un lieu commun d'en parler, le jeu Pong. Et c'était d'ailleurs, on parlait beaucoup au début, notamment dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France, on parlait de jeux télé. Hein, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore. On n'avait pas encore détaché de l'objet télévisuel le jeu vidéo. Donc il y a eu toute une période comme ça où c'était quelque chose c'était conçu un peu comme un accessoire à la télévision. Et puis, bien sûr, alors ça, c'est pas une salle d'arcade des années 80, c'est une salle d'arcade aujourd'hui, mais c'est pour montrer que ça n'a pas disparu hein, avec la fin des années 80. Mais dans les années 80, on passe à cette image de la salle d'arcade comme en plus une activité typique de l'activité adolescente, alors que un jeu comme Pong, par exemple, pouvait être, comment dire, pratiqué en famille. Hein, donc là, avec la salle d'arcade, on se retrouve dans un lieu spécifique où on va avoir l'activité des adolescents. et en plus dans une vision qui est vraiment liée au développement de la société de loisirs, de la société de consommation. Et ces années 80 sont aussi celles où en France on voit l'État qui commence à prendre la mesure de l'importance stratégique de l'informatique pour la société du futur, et donc on a la mise en place d'un certain nombre de cours de programmation, hein, notamment au collège. Je peux d'autant plus facilement en parler que j'en ai eu moi-même des cours de basique et de Pascal où on apprenait à écrire des lignes de code pour produire des petits jeux. Alors c'était évidemment très laborieux, mais je me souviens déjà qu'à cette époque, on a vu naître des vocations. Et j'ai quelques amis qui, ayant rencontré ces cours-là au collège, sont devenus ingénieurs programmeurs par la suite. Et puis, c'est le moment aussi où les ordinateurs personnels vont pénétrer les foyers. Donc vous voyez, hein, on a à la fois la dimension jeux vidéo, loisirs d'ado, dans l'imaginaire lié à la société de consommation et de loisirs. On a la vision éducative de l'autre côté, mais qui passe vraiment par la source, hein, par le codage. Et puis on a l'outil alors complètement autonome par rapport à la télévision, qui est l'ordinateur, sur lequel on ne peut pas regarder la télévision, on ne peut que faire de l'informatique ou jouer aux jeux vidéo. Et à la même époque, toujours dans ces années-là, on a des sortes de consoles portatives, si vous voulez, des jeux portatifs plutôt, donc notamment ces Game & Watch, cette série de jeux qui a fait fureur dans les cours de récréation. Même au Maroc, quand j'étais à l'école primaire, on avait ces jeux-là, le must étant les jeux sur plusieurs écrans, qui pouvaient se déplier sur plusieurs écrans, et donc le personnage pouvait se déplacer d'un écran à l'autre. Et c'est aussi ces années 80 l'émergence de toute une presse spécialisée. Donc on a des titres comme Tilt, Science et Vie Micro, Jeux et Stratégie, qui a eu une importance, une influence essentielle, parce que c'est un magazine qui faisait le lien entre toutes les pratiques ludiques, aussi bien des jeux de plateau, les jeux de rôle, les wargames, les jeux de guerre ou les jeux vidéo. Et cette presse, elle montre que le jeu vidéo est pris au sérieux, pas seulement sous l'angle de l'informatique, hein, d'une sorte de production de l'informatique et du code, mais aussi comme discours culturel, comme représentation culturelle. Et donc cette presse va commencer à produire une expertise. Et à mon sens, c'est un début de légitimation culturelle du jeu vidéo, un peu comme la presse cinéphile avait pu jouer ce rôle de légitimer le cinéma en tant qu'objet sérieux, hein, à la fois par rapport au discours véhiculé en tant que technologie et création, hein, mais aussi en tant que pratique. Ça devient quelque chose de sérieux puisque on peut discuter, développer une expertise, lire des articles, confronter des points de vue, etc. Donc vous voyez, ces années 80, elles sont vraiment, à mon sens, assez structurantes. Et c'est lié au développement, bien sûr, de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek, mais qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. C'est lié aussi au développement des jeux de rôle sur table, dont le plus fameux est Donjons et Dragons, qui était créé en 1972, et qui arrive en France confidentiellement à la fin des années 70, et puis c'est vraiment le boom au début des années 1980 avec les premières traductions. Et là, ça a un impact culturel énorme et qui va en quelque sorte prédisposer au développement du jeu vidéo par la suite. Et d'ailleurs, les passerelles entre les créateurs de jeux de rôle sur table et les créateurs de jeux vidéo, la création de jeux vidéo existe et se font dès la fin des années 80. C'est aussi lié. Ah oui, et d'ailleurs, j'en profite pour caser Vin Diesel, que vous pouvez regarder sur YouTube, puisque c'est un fan de Donjons et Dragons et de jeux de rôle, et donc il filme certaines de ses parties avec ses amis, et c'est très, ouais, c'est très, très amusant. C'est aussi lié toute une culture autour des jeux de plateau. Alors on est dans des jeux beaucoup plus sophistiqués que Risk ou Monopoly. Ce sont des jeux qui ont des règles complexes, qui sont basés sur la stratégie. Ici, par exemple, on a un plateau d'une version de Civilization, qui a aussi donné, je l'ai mis ici parce que ça a aussi donné un fameux jeu vidéo qui en est aujourd'hui, je crois, à sa sixième... son sixième épisode, il me semble. Donc vous voyez, on s'inscrit dans une culture ludique qui est déjà en elle-même multimédiatique, multi-support. Hein, c'est pas juste le jeu vidéo. On peut pas comprendre le jeu vidéo sans comprendre l'ensemble de cette culture ludique. À tel point qu'on peut même évoquer ce qui aujourd'hui alors existe encore, mais de façon très très, disons, confidentielle, c'est les jeux par correspondance. Avant Internet, évidemment, on avait des jeux par correspondance et donc on écrivait les actions, si vous voulez, pour décrire ça simplement, en suivant les règles du jeu. Chaque joueur pouvait, sur un système de tours, de jeu tour par tour, écrivait les actions qu'il comptait faire, et on s'envoyait ça par la poste, on recevait et on répondait. Hein, vous voyez, donc, voyez jusqu'où ça peut aller, mais ce qui est intéressant, c'est le type de dispositif. Hein. Évidemment, aujourd'hui, par exemple, ce qui se rapproche le plus de ça, ce seraient les jeux en ligne. Hein. Internet a permis d'accélérer ça, mais le principe est déjà là. Donc c'est un peu une décennie qu'on peut considérer comme fondatrice de la culture vidéoludique, de la culture geek actuelle, et souvent on dit aujourd'hui cette culture geek qui était déconsidérée, aujourd'hui a gagné, elle est partout. Elle sert de référent culturel dominant, les super-héros au cinéma, le cinéma fantastique, etc. C'est vraiment devenu des références qui étaient confidentielles, comme Le Seigneur des Anneaux, c'est devenu quelque chose de très largement partagé. Mais il faut se rappeler que quand on arrive dans les années 90, c'est déjà un peu dans les années 80, mais surtout dans les années 90, cette culture geek, elle a été, qu'on n'appelait pas encore comme ça, elle a été très attaquée. Elle a été très attaquée sur le mode des paniques morales. Et panique morale associée à la jeunesse, hein, souvent, c'est-à-dire, voilà, c'est un loisir de la jeunesse, un loisir par définition immersif. Hein, les loisirs ludiques sont immersifs parce qu'on a envie de jouer le plus longtemps possible. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et puis en plus, outre cette dimension immersive, il y a le type de représentation associée à cette culture-là, et notamment des univers qui, à l'époque, semblent effrayants pour les parents. Des monstres, des histoires d'horreur, de combat, d'affrontement, on a des personnages qui s'affrontent, qui doivent se tuer, etc. Et donc il y a tout un discours de panique morale qui se développe et qui est lié finalement davantage à l'idée qu'il faut contrôler la jeunesse et il faut contrôler ce que fait la jeunesse. Évidemment, du point de vue des joueurs et des joueuses qui existent déjà et qui sont déjà présentes, mais en bien qu'en forte minorité, c'est pas du tout ça. C'est essentiellement passer de bons moments entre amis, en partageant des références culturelles que l'on comprend et que les adultes ne comprennent pas forcément. Donc c'est ça l'argument principal finalement. Mais on voit que ce discours de panique morale, il perdure. Il perdure aujourd'hui, par exemple, dans les clips qui servent alerter les parents sur les dangers des écrans, etc. Il y a tout un discours comme ça qui continue d'être structuré, sur lequel on pourra revenir. Il faut juste rappeler que ce type de discours lié aux paniques morales, il est quand même récurrent et le cinéma lui-même en a été l'objet. Donc méfions-nous de ce type d'appréhension du jeu vidéo. Donc les années 90-2000, on peut dire que ce sont celles de l'installation définitive du loisir vidéoludique dans le domaine de la culture de masse. On a une multiplication des plateformes qui s'installent dans les salons et dans les chambres. On a le développement de l'Internet grand public qui va aussi favoriser l'arrivée de jeux en ligne comme World of Warcraft, dont vous avez certainement entendu parler. Et puis, on a aussi un élément déterminant dans ces années-là, c'est c'est l'accès des joueurs devenus adultes au monde du travail et donc ils jouent ou ils ont joué et maintenant c'est des adultes et aujourd'hui on a des maisons de retraite qui pour travailler les facultés cognitives des pensionnaires, utilisent simplement le jeu vidéo. On peut imaginer que les joueurs d'aujourd'hui, ils seront comme ça demain. Et évidemment, ce petit clin d'œil permet aussi de relativiser, de dire, on est quand même avec un objet qui a plus de 50 ans d'existence, quoi. Hein. Donc il ne faut pas oublier que on peut être vieux et avoir joué aux jeux vidéo dès le début. Et cette accession aussi au monde du travail fait que, en quelque sorte, on va avoir une normalisation du rapport au jeu. Bon, les années 90, quelques jalons. On a un livre dès 1993 de Alain et Frédéric Le Diberder qui a peur des jeux vidéo. Donc on voit bien que c'est un livre qui présente une histoire des jeux vidéo et qui analyse un peu ce que c'est les jeux vidéo, mais qui répond en même temps au contexte dans lequel ils s'inscrivent, c'est-à-dire ce contexte de méfiance, de défiance à l'égard du jeu. Et ils seront d'ailleurs à l'origine aussi ce sont des vrais précurseurs, ils sont à l'origine du deuxième monde, qui est une sorte de communauté virtuelle sur Internet qui préfigure les réseaux sociaux actuels. Et donc c'est véritablement au cours des années 2000 que, pour moi, va s'achever le processus de légitimation culturelle du jeu vidéo et qu'on va avoir des résultats tangibles de cette légitimation. D'abord, il y a des formations spécialisées qui sont créées. Le CNC engage une réflexion pour soutenir la production et la création vidéoludique avec le fonds d'aide aux jeux vidéo. La dimension artistique est davantage mise en avant par une scène indépendante, par des studios qui vont justement, pour obtenir aussi des financements publics, mettre en avant la dimension créative de leur travail. En 2008, on avait organisé à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, deux journées de formation professionnelle dans l'éducation populaire. Et David était présent d'ailleurs. Et on avait invité les responsables d'un studio qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle White Birds, et qui travaillait avec Benoît Socal, un dessinateur, sur la création de jeux, et son jeu phare, c'est la série Siberia. Et donc il y a aussi toute une dans leur travail, il y avait toute une réflexion sur la création graphique, sur la création d'univers, etc. Et ça, on voit, ça devient aussi un argument dans la création de jeux, au-delà de simplement du principe ludique. Donc ces années-là, c'est aussi l'apparition de lieux consacrés aux cultures numériques, comme la création du Cube à Issy-les-Moulineaux en 2001, qui est le premier centre français dédié à la création numérique et qui existe toujours aujourd'hui, qui poursuit son activité. Ce sont des années où, à l'université, il y a des chercheurs qui commencent à travailler sur ce qu'on appelle donc les game studies. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est engagé de façon irréversible dans ce processus, ce chemin de l'hybridation culturelle où finalement à la fois les cultures vidéoludiques, les cultures ludiques et les cultures de l'image en général sont étroitement liées et imbriquées. Donc l'idée c'est un petit peu de proposer de dépasser cette façon de considérer le cinéma d'un côté, le jeu vidéo, et puis comment, etc. Ils sont déjà hybridés, à mon sens. Bon, et quand je dis ça, il faut aussi tenir compte de ce concept dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celui de gamification, ludification en français. Donc on utilise soit gamification, soit ludification, cette idée que finalement, le principe de base de la relation sociale aujourd'hui, à travers l'usage des outils numériques, passe par le jeu, par le ludique. Vous avez vous-même l'expérience, comme tout le monde, hein, d'utiliser des applications qui renvoient finalement à un principe ludique. Hein, j'appuie sur un bouton, j'obtiens ça, je clique ici, j'obtiens ci, etc. Donc cette interactivité avec un environnement devenu dit intelligent, est aussi au fondement de tout un discours commercial, de tout un discours marketing, dont il faut bien avoir conscience, que ce soit pour en tenir compte et trouver son chemin à l'intérieur ou pour le critiquer. Donc, aujourd'hui, aussi, autre lieu commun, le jeu vidéo a un chiffre d'affaires supérieur à celui du cinéma. Forcément, quand on vend un jeu à 70 euros, c'est vite fait. Mais c'est une réalité. Hein. Dans cette économie, les sociétés françaises occupent une place importante. Donc là aussi, tenir compte de cette réalité industrielle pour avoir conscience de ce qu'on peut faire. Sur le plan culturel et éducatif, les événements se multiplient. Il y a notamment le Stunfest à Rennes, qui est un gros rassemblement avec des gens qui viennent un petit peu toute la France, et sur un mode peut-être un peu plus festif, mais aussi réflexif. Il y a des compétitions de e-sports qui se développent, des écoles spécialisées qui continuent de développer leur formation, qui proposent des cursus complets. Il y a un collectif de chercheurs international qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui rassemble des dizaines de chercheurs et chercheuses sur la question des mondes numériques et du jeu vidéo en particulier. Il y a des actions de formation sur le jeu vidéo et les cultures numériques. L'éducation nationale est impliquée de longue date, notamment sur le serious gaming, dont on pourra dire un mot, les jeux sérieux, parce que évidemment l'éducation nationale et le ministre actuel le rappelle, on n'est pas là pour rigoler, donc ça doit être sérieux, hein, attention. On pourra d'ailleurs discuter aussi des limites du serious gaming, mais c'est pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse au rôle du jeu vidéo dans l'éducation et dans la formation. Ça fait plus de 20 ans. Hein. Et enfin, pour terminer cette mise en perspective, aujourd'hui, on l'a vu avec l'exemple de Red Dead Redemption 2, les lancements médiatiques des jeux dits AAA qui correspondent aux blockbusters au cinéma. Les lancements médiatiques se font aujourd'hui comme si on avait affaire au nouvel épisode de Star Wars. Ce sont des jeux, ce type de jeux épouse d'ailleurs de plus en plus les formes du cinéma et vont produire des héros ou des héroïnes qui vont imprégner des mythologies qui vont imprégner la culture populaire, qu'il s'agisse de Lara Croft, de Kratos, de Nathan Drake, de Mario, etc. Alors, cette mise en perspective achevée, je souhaite revenir à la question du cinéma. Bon, donc, on a parlé depuis à peu près les années 90, on a parlé dans les années 90 de la mort du cinéma. Il y a quelques années, on a commencé à parler du post-cinéma. Bon, encore une fois, on a l'impression que dans cette histoire-là, on est tout le temps dans une situation de crise qui doit penser la reconfiguration, le renouvellement, etc., etc. Alors, d'autres points de vue vont dire, au contraire, on est dans l'ère de l'écran global. Et cet écran global signe la victoire du cinéma. Parce que justement, là où je disais tout à l'heure, il y a un principe ludique qui s'est généralisé à travers le numérique, le point de vue de l'écran global, c'est de dire finalement le principe du dispositif cinématographique, le principe du cinéma a essaimé, à tel point que quand on fait des séries télé aujourd'hui, il faut qu'elles soient le plus cinématographiques possible pour être... pour être reconnu aussi bien par le public que par les experts. Et ce sont d'ailleurs les séries que l'on va distinguer, que l'on va récompenser, etc. Vous avez beaucoup d'exemples en tête qui vous viennent. Et cette victoire du cinéma, elle est visible dans les séries, mais aussi dans les jeux vidéo, justement à travers l'exemple de jeux que je citais tout à l'heure, ou même les courts-métrages publicitaires, dont les plus remarquables vont adopter aussi une mise en scène et des moyens cinématographiques, ou bien le recyclage des références cinématographiques, que ce soit dans la publicité ou dans les références visuelles, dans la photographie ou les médias en général. Donc, dans ce contexte, quelle place pour la salle de cinéma ? Le but de ce projet, c'est d'ouvrir le questionnement en partant des expériences et des points de vue des acteurs et actrices qui sont impliqués dans la vie des salles de cinéma, parce qu'il y a beaucoup déjà de réflexions qui existent sur les salles du cinéma du futur, etc. Je vais en dire un mot ensuite. Et puis... David disait tout à l'heure, je vais présenter des expériences, etc. Bon, là, pour l'instant, je vous montrerai deux, trois choses, parce que évidemment, on est dans un projet qui est expérimental. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se structurer et apparaître aussi en cours de route. Donc, j'y insiste, à ce stade, la réussite du projet implique l'implication et l'implication des acteurs et actrices de l'éducation à l'image. Le cinéma a toujours été associé à l'idée d'innovation technique. Et dans ce contexte d'évolution rapide, de constante innovation, de recherche de constante innovation, les salles de proximité, les salles publiques, les salles associatives, elles ont régulièrement porté la réflexion, elles se sont réinventées, elles ont développé des actions périphériques, complémentaires à la salle, elles ont réfléchi à comment ancrer dans un territoire leurs actions, comment travailler les publics de façon spécifique, différenciée. Donc on ne peut pas dire que le secteur soit... à mon sens, à la traîne ou à la ramasse, ou etc. Au contraire, c'est plutôt le contexte qui est difficile. Comme je le disais, on a le sentiment d'être dans un régime de crise permanente, et puis, bon, la difficulté, l'évolution du secteur, les difficultés de l'évolution du secteur, elles sont réelles. Mais si on regarde du côté de l'industrie, ces trois ou quatre dernières années, on a vu émerger un ensemble de réflexions et de discours qui sont structurés autour de points saillants, qui sont les suivants. Le système de projection, l'expérience spectatorielle, l'architecture du lieu cinéma, la programmation et la commercialisation de la séance. Alors, Si je prends le système de projection, par exemple, on est encore là récemment sur des débats autour de Samsung et de sa technologie Onyx qui souhaite, enfin qui vise à supprimer le projecteur pour installer un écran LED, donc un système tout à fait différent, mais qui a pour je n'ai jamais vu ce que ça donne très concrètement, mais le but est d'avoir une meilleure qualité d'image, évidemment. Il y a la technologie éclair-color qui équipe une quarantaine de salles en France et qui là aussi revendique une qualité d'image supérieure à celle que l'on a actuellement en numérique. Si je prends l'expérience spectatorielle, on peut évoquer la 4DX. Vous allez à Paris au cinéma Pathé Villette et vous pouvez avoir une expérience sensorielle. Et c'est censé être un argument supplémentaire pour l'expérience, donc où il y a cette idée d'immersion renforcée, si vous voulez. C'est là-dessus que je souhaite insister, cette notion d'immersion. Si on va voir du côté de l'architecture du lieu cinéma, il y a des lieux qui cherchent à se réinventer ou à s'inventer, comme le projet de salle Étoile Voltaire à Paris, où on va investir une ancienne centrale électrique pour imaginer une salle de cinéma avec un espace café qui est directement ouvert et qui ne va pas servir de hall d'accueil, si vous voulez. On supprime le hall d'accueil de la salle de cinéma, etc. Enfin, il y a tout un tas de réflexions architecturales comme ça, mais aussi l'idée que finalement le cinéma, ça doit être un lieu où on peut venir donner ses rendez-vous, travailler, s'asseoir avec son ordinateur et travailler, etc. Donc un lieu de vie et de sociabilité. Au niveau de la programmation, ça fait des années qu'on le fait, qu'on en parle, c'est tout ce qui est hors cinéma, les concerts, le e-sport ou les sessions de jeux sur grand écran aussi. Et puis pour la commercialisation, les systèmes de paiement en ligne. En France, par exemple, aujourd'hui, plus de 70% des sorties en salle sont initiées par une visite sur un site internet. Et ça, c'est un basculement qui est assez important, qui contraste avec encore les années 2000 où la détermination du choix de film se faisait beaucoup par l'affiche, par exemple, qu'on voyait au moment où on se rendait dans la salle de cinéma, on voyait l'affiche et on se déterminait comme ça. Là, maintenant, on observe qu'il y a vraiment une recherche sur Internet préalable. Donc la question, il faut être visible, du coup, en tant que lieu, il faut être visible, il faut être présent, matériellement sur Internet. On a aussi des projets de dématérialisation de la programmation avec des plateformes VOD tenues par la salle de cinéma. Hein. On peut imaginer un réseau qui a un monopole sur l'exploitation d'un film et qui va proposer aux personnes qui ne viennent pas voir le film en salle d'accéder au film via la plateforme, alors soit au coup par coup, en VOD, soit via un abonnement. Donc, toutes ces réflexions, elles sont en cours, elles existent dans l'industrie, et on pourrait dire que tout ça, c'est un univers qui est très éloigné du nôtre, avec des moyens financiers et des enjeux commerciaux qui ne sont pas les nôtres, et puis des objectifs qui sont pas culturels, qui ne sont pas les nôtres non plus. En même temps, ces questions-là, elles sont posées à partir de réalités concrètes, avec des objectifs différents de ceux qu'on voudrait avoir, je pense, des réalités concrètes. La place du spectateur qui est posée comme un enjeu, avec des expérimentations qui sont proposées. La question du cinéma comme expérience immersive. Et vous avez vu les casques de réalité virtuelle, par exemple. Il y a des cinémas qui proposent des espaces maintenant où on peut expérimenter ces casques de réalité virtuelle. Mais aussi l'intégration et l'évolution des contraintes et pratiques des publics. L'idée d'avoir un cinéma où on peut aussi, qui soit aussi un espace de travail, correspond à toute cet éclatement, cette fragilisation et précarisation du travail qui fait que on n'a plus d'espace pour travailler, on doit travailler chez soi, on préfère travailler à l'extérieur, donc il y a des espaces de coworking et le cinéma peut jouer un rôle dans ce sens. Bon, mais évidemment, on peut imaginer aussi que ce soit un autre projet que celui d'être un espace simplement de coworking. Finalement, c'est le cinéma comme lieu de vie et de sociabilité au-delà de l'expérience du film. Et enfin, dans ces réflexions de l'industrie, on retrouve aussi le cinéma comme polarité technologique où vont s'exprimer les dernières innovations et où on vient les découvrir. Donc l'idée que finalement c'est un lieu où on va être confronté aux innovations technologiques. Et ça, cette dimension, pour nous, je pense qu'elle est aussi intéressante parce qu'on peut tout à fait imaginer, à travers les productions créatives du numérique, de penser le lieu cinéma en tant que tel. C'est-à-dire qu'on vient pas seulement voir un film, mais on vient aussi découvrir, y compris sur le mode du gadget parfois, hein, pourquoi pas, découvrir une innovation technologique, qu'elle soit visuelle, sonore, etc. Donc, pour lancer la discussion, je voudrais juste, avant qu'on arrive à la discussion, vous présenter très rapidement des choses qui existent. Alors, en Australie, il y a... alors, si ça charge... Voilà. Australian Center for the Moving Image, donc le... qui, en gros, c'est, si vous voulez, c'est un principe de cinémathèque autour des cultures numériques et des images en mouvement en général, avec espace-bar, boutique. Vous voyez, c'est conçu vraiment comme un espace total. Et surtout, c'est pas positionné sur le cinéma, c'est positionné sur l'image en mouvement. Et les cultures digitales en général. Ce qui permet d'avoir des expositions qui ne sont pas, par exemple, qui ne hiérarchisent pas, hein, entre les différents types de production d'un point de vue culturel ou artistique. Hein, on s'intéresse à ce qu'il y a de créatif et à ce qu'il y a d'artistique, de culturel, dans toutes les modalités de production de l'image, y compris les images télévisuelles. Donc ça, c'est un positionnement qui me semble intéressant. Après, on a aussi une expérience plus proche de nous dont on reparlera, c'est celle du K10 à Charleroi. Bon, en 2016, il y a eu un rapport qui a été fait sur l'évolution des salles du cinéma qui a été rendu au CNC. Et dans ce rapport, il y avait cette idée que dans les années suivantes, on allait observer un retour des cinémas, des exploitants en centre-ville, dans les centres-villes, en particulier dans les métropoles, mais sur un modèle de salle différent, un modèle de salle premium, en quelque sorte. Et très concrètement, on a quelques exemples de ce genre de tentatives. Je parlais tout à l'heure du projet Étoile Voltaire qui découle de cette évolution, mais il y a aussi le Gaumont Fauvette à Paris, avec l'idée de investir par exemple un lieu architecturalement spécifique, identifié, une friche industrielle ou un bâtiment signé par un architecte, avec un type de salle où on a davantage de confort. Par exemple, si je vous montre ça, voilà à Londres, l'Electric Cinema, qui est en fait la plus vieille salle en activité, encore en activité de Londres, puisqu'elle date de 1901, qui a une programmation assez à la fois sur l'actualité, mais aussi sur des films de patrimoine. Par exemple, là, il passe pour Noël, j'ai vu qu'il passait It's a Wonderful Life de Capra. Mais avec un principe qui est celui-là, c'est qu'on doit être, on doit pouvoir manger dans la salle et on doit être confortablement installé. Bon, alors ce sont des choses qui ont été complètement exclues de nos pratiques. Quand je programmais une salle de cinéma, évidemment, c'était pareil. Hein. Je programmais aussi des salles de cinéma où on ne mange pas et où on a des sièges qui ne sont pas toujours très confortables. Mais c'est une vraie question à poser, je pense. D'abord parce que ça marche et que on voit que ce n'est pas forcément lié au type de programmation qui est proposé. Ce n'est pas uniquement de la programmation blockbuster, etc., qui est associé au fait de pouvoir être à l'aise et de pouvoir se restaurer, surtout quand on sort directement du travail et qu'on a juste le temps d'arriver à la séance. Parce que c'est ça aussi, rallongement des temps de trajet, etc. Il y a toutes ces réalités-là, en fait, que ces salles essayent de prendre en compte. Mais aussi quelque chose qui peut attirer à nouveau les jeunes, hein, dans la configuration des salles revisitées. Je l'ai vu en Australie aussi à Sydney, ce même principe. Dans des salles tout à fait normales, où on peut manger, se restaurer. Hein. Donc, et ça marche très bien. Donc moi je pense qu'il y a une vraie question à poser. Sur ce point-là. On voit dans l'expérience du K10 que on a repris finalement un certain nombre de ces idées que les gros exploitants, les industriels travaillent. On réinvestit un lieu, une friche industrielle, on fait un espace qui associe brasserie, cinéma, espace d'exposition, espace d'éducation, avec différents dispositifs d'éducation à l'image qui se déroulent dans le lieu même, etc. Donc on a ici finalement les mêmes principes, mais qui sont investis différemment, hein, pour porter un autre type de projet que celui simplement de faire de l'argent. Ça me semble d'autant plus important de se confronter à ces questions-là que, par exemple, on a des groupes comme Imagis qui se positionnent sur tous les secteurs. Tout à l'heure, je parlais du dispositif de projection Éclair. Alors, ils ont aussi Éclair Game, qui est une division qui va chapeauter des ciné-sessions qui s'appellent ciné-sessions, mais qui sont en fait des sessions de e-sport. Au cinéma pâté de la Villette, et on a aussi Éclair Play, voilà, qui est une plateforme dédiée sur laquelle vous pouvez aller chercher, en tant qu'exploitant, vous pouvez aller chercher les films qui sont proposés au catalogue. Donc on est vraiment, si on fait pas attention, ce que je veux dire, c'est que si on fait pas attention et que le secteur public, associatif, des salles de proximité ne se positionnent pas sur ces enjeux-là, il y a beaucoup de choses qui vont être confisquées. Et on va être encore plus en termes de possibilités de programmation, de possibilités d'action. Il y a des gros opérateurs qui commencent à confisquer, à se créer des catalogues, à confisquer des contenus. Et s'il n'y a pas de projet fort porté par les acteurs des salles de proximité, des salles publiques, eh bien, on risque de se retrouver simplement dans une situation où on va avoir de moins en moins de possibilités d'éditorialiser parce qu'on aura de moins en moins accès au contenu. Or, il existe, et je termine là-dessus, il existe des productions en jeux vidéo qui peuvent tout à fait trouver leur place dans... peut-être montrer celui-ci, qui peuvent tout à fait trouver leur place dans nos salles, et notamment ce festival, gros festival indépendant, qui a eu une édition à Paris cette année, Indiecade, où le principe, dans une grande salle au CNAM, on pouvait rentrer et essayer des jeux. Donc il y avait la queue, il y avait énormément de monde, et on pouvait essayer des jeux et découvrir tout un tas de productions indépendantes. Mais alors là, c'est une mine d'or, parce qu'en termes de programmation d'un espace, ce sont des créateurs qui n'ont qu'une envie et qui parfois sont animés de principes justement militants, qui font qu'ils veulent aussi parfois que leurs jeux soient mis à disposition sans essayer d'en faire des sources de profit. Et aussi, il y a de l'inventivité, il y a des formes très différentes, soit ça peut être des jeux narratifs, mais ça peut être des jeux simplement très courts, très ludiques, etc. Donc voilà des choses qui se passent, qui ne sont pas encore, à mon sens, suffisamment connectées à l'action des salles de cinéma, alors que l'idée du projet qu'on essaye de défendre ici, c'est que le cinéma reste une polarité et sur un territoire. et que donc il a légitimement, il est légitimement en capacité d'attirer tout ce qui se fait autour des images qui bougent. C'est un petit peu l'idée qu'on essaye de défendre dans ce projet. Et puis la question, évidemment, c'est comment faire. Comment faire à partir des réalités de chaque territoire, des réalités de chaque salle? Est-ce qu'il y a des synergies à imaginer, des projets à porter à un niveau politique en termes d'aménagement du territoire pour que sur le long terme des projets ambitieux deviennent possibles? Mais tout ça, c'est ce dont on souhaiterait discuter. Et j'ai essayé simplement dans cette intervention introductive présenter un certain nombre d'enjeux. Et donc maintenant, je pense qu'on a un petit moment pour la discussion, si j'ai respecté le temps.